La table des gourmands. Sandra. La table des gourmands. Sandra.
Notre invité de ce soir a osé relever un défi hors du commun depuis maintenant 10 ans. Ce viticulteur en caveur produit son vin à Moutier, un vin qui au fil des ans a conquis les meilleures tables des restaurants du pays et ravi les palais de nombreuses bouches. Vigneron et en caveur, cet épicurien de la prévôté a fait de sa passion son métier. Il a réussi à développer son projet et son rêve, à savoir cultiver de la vigne et produire son vin issu des vignes de l'abbaye de Moutier-Grandval au Jura. Il est l'instigateur de la cave Saint-Germain à Moutier, millésime, terroir et philosophie sont au rendez-vous ce soir avec Aurel Morf.
La table des gourmands, jusqu'à 19h.
Aurel, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, merci.
Alors souvent petits, les garçons rêvent d'être pompiers, policiers, pilotes de ligne, bûcherons, rarement vignerons. Est-ce que déjà petit, ce métier vous fascinait ?
Alors, étant né à Moutier, non, parce qu'en fait, je ne le connaissais même pas, ce métier. Donc j'avais plutôt une attraction pour la forêt, effectivement. J'aurais presque fait bûcheron pour ensuite être ingénieur forestier. J'avais une attraction pour la cuisine. J'avais fait plusieurs stages en cuisine. En même temps, une attraction aussi pour les herbes aromatiques, toutes ces petites choses, en fait, le domaine du goût. Et c'est complètement par hasard que le métier de vigneron s'est proposé à moi au cours d'un voyage et qu'en fait, il réunissait un petit peu tous les intérêts comme ça. Il y a la plante, il y a le fruit, la transformation et puis le rapport avec le goût ensuite.
Parce qu'au départ, vous dites que vous vouliez être bûcheron et puis en fait, vous partez, vous décidez de voyager. Et c'est lors de ces voyages justement que c'est venu un peu, enfin que l'idée est venue. Dites-moi si je me trompe.
Hein. Alors, c'était une ambition, en fait, de partir voyager. J'ai fini le gymnase et je voulais faire un tour de la Méditerranée à pied. Mmh. Et en fait, le voyage a duré très peu de temps. Je pensais faire une année à pied et après 3 semaines, c'était déjà la catastrophe. Et je n'avais plus du tout envie de mettre un pied en avant dans la forme du voyage. Je ne pouvais pas non plus rentrer à la maison en ayant dit que je partais minimum une année. Après 3 semaines, ça faisait un peu bœuf. Donc, il fallait trouver une solution et je l'ai trouvé, en fait, en me faisant engager dans un domaine viticole, mais complètement par hasard, par des voies obscures qui se sont révélées très claires à ce moment-là. Et je me suis retrouvé dans le sud-ouest de la France, dans le Madiran, et c'est là où le métier m'a conquis, en fait.
Et donc, vous avez commencé un stage-là. Alors, ce qui est rigolo, quand vous le racontez, hein, je l'ai déjà entendu, vous dites, vous êtes arrivé, vous proposez donc vos trades à un maître chais qui, en fait, se dit, non, mais ça va, ou bien...
Personne était choquée au début. Elle m'a dit, non, mais vous foutez de ma gueule. On n'est pas un domaine de mariole, ici. C'est un domaine sérieux. Non, on ne va pas vous engager comme ça. Parce que j'étais mal présentable. J'étais un voyageur. Donc,
oui, en baroudeur.
Voilà. Et sans capacité et sans connaissance dans le domaine. Il m'a dit, non. Ici, ce sont des étudiants sérieux qui viennent frapper à notre porte. Et finalement, en insistant un peu, il m'a dit, bon, allez, montez au chien, on va voir ce que vous valez. Et finalement, on a eu une très bonne relation pendant 7 mois. Donc... C'était un domaine très grand, en fait. C'était Château Montus, donc c'est 2 millions de bouteilles par année. Là aussi, il venait d'être élu vigneron de la décennie dans les années 2000. Donc c'était très... Oui, c'était une chance, en fait, de pouvoir arriver dans ces chais de cette manière-là.
Donc ensuite, de retour à Moutier, est-ce que... Alors, vous reprenez des études d'œnologie ou pas? En tout cas, vous parcourez le pays en effectuant de nombreux stages. Et un jour, votre patron vous paye en raisin, faute de moyens.
Alors, le but était effectivement de venir faire une école soit à Changin, soit à Weddensville. Il y avait encore deux.
Donc, d'œnologie.
D'œnologie, oui. Et je n'ai jamais pu mettre les pieds dans une école d'œnologie parce que j'ai fait pourtant tous mes stages préparatoires. Et le dernier des maîtres de stage, en fait, n'avait pas les moyens de me payer. Il m'a dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Tout ce que tu vas apprendre, il va falloir le désapprendre. Donc, tu as meilleur temps que je t'aide à faire un peu du vin ici. Je te mets à disposition des cuves, trouve-toi du raisin. Et puis, je t'aiderai un peu avant de ça. Ça te fera tes quelques sous. Et puis, voilà.
Et puis donc, vous démarrez comme ça, vous laissez tomber les études. Enfin,
voilà, je n'ai même pas commencé. Pas choix, hein.
Et puis, vous démarrez comme ça. Vous louez donc des terres au Tessin dès 2005. Vous avez à l'époque 22 ans, si je ne me trompe. Vous vous lancez donc dans ces vignes, hein, dans ce travail de la terre. Est-ce que l'espoir, il était tout le temps là? L'espoir de revenir à Moutier, il était quand même toujours là?
Alors, c'était une envie dans le sens où Moutier a une histoire très riche au niveau de cette abbaye de Moutier-Grandval, qui est quand même une source d'aspiration abondante, on va dire. Il y a à Moutier, il y a eu plusieurs caves. Hein, dans l'histoire de Moutier, il n'en reste plus qu'une, parce que certains des bâtiments historiques ont été détruits au fil du temps pour faire place à d'autres bâtiments. Mais il restait deux caves vraiment voûtées que j'avais eu l'occasion de visiter jeune, parce qu'à un moment donné, elles servaient comme local pour les braderies. Mmh. Et le ski club, il faisait sa guinguette. Et je me souvenais vraiment de ces caves. Et j'ai toujours voulu en fait faire du vin à cet endroit-là. Simplement, elles étaient occupées par deux clients bien solvables. Et le propriétaire du bâtiment ne voulait pas mettre à la porte des clients solvables pour un jeune qui voulait faire du vin à Moutier.
Puis ça, pour je le Mario, comprends,
Je le comprends totalement. Et je dois mon retour à Moutier à un concours de circonstances à nouveau complètement fou. C'est une canalisation d'eau qui s'est brisée sur la route devant la porte de la cave. Au moment où moi je cherchais des caves, en fait, tout est ça. J'étais prêt à m'établir là-bas. Et cette canalisation d'eau s'est rompue, mais vraiment, devant la porte, a giclé contre la porte, a inondé la cave qui était occupée par un dépôt de radio et télévision. Donc c'était un peu plus facile de venir remettre une compresse. Et avec à force d'assistance, un petit peu à l'épuisement, voilà, le propriétaire et le locataire du lieu ont été d'accord en fait, je reprenne les locaux.
La table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Et jusqu'à 19h, nous sommes toujours en compagnie d'Aurèle Morf, vigneron en caveur au Cave Saint-Germain de Moutier. Aurèle, vous l'avez dit, donc vous partez dans le but de voyager lorsque vous êtes jeune. Vous finissez chez un maître chai, vous apprenez le métier sur le tard et vous revenez donc avec toute cette expérience que vous peaufinez puisque vous faites différents stages qui vous ramènent à Moutier, dans la cave de vos rêves, celle où vous passez vos soirées en période de braderie. Et vous décidez donc de planter des cépages de Cabernet Jura sur les terres, en dessous de la collégiale, sur une petite parcelle. Est-ce que là aussi, c'était le seul endroit qui vous permettait de faire du vin?
Alors, ce n'était même pas un projet préalable, on va dire. C'est de nouveau un hasard, c'est-à-dire qu'au moment, c'était en 2007, c'était un syndicat intercommunal de l'hôpital qui vendait l'ensemble de ses biens, parce que l'hôpital n'était plus à l'endroit où il était à l'époque. Et dans ses biens, il y avait ce terrain qui intéressait personne, parce qu'il était plein de servitudes, on ne pouvait rien y faire d'autre que de la culture. Il était pris un petit peu par des broussailles et tout. Donc voilà, en désespoir de cause, ils sont un peu venus le proposer aux vignerons. Et moi, je n'avais absolument pas l'argent ni les moyens de l'acquérir, et encore moins de le transformer en vigne. Et finalement, le terrain était idéal. Il permettait justement d'y implanter vraiment de la vigne et de voir ce que ça donnait. Et c'est là qu'on a fait un appel à parrainage, parce que justement, c'était l'époque où on commençait à entendre parler du financement participatif. Mmh. Et j'ai demandé à des clients et amis si ça les intéressait de parrainer un cep de vigne en recevant après une bouteille du vin pendant les 5 premières années. Et que ça se réaliserait seulement s'il y avait assez de parrains qui marchaient dans la combine. Et finalement, ça a dépassé les attentes et on a pu faire cette première vigne comme ça en 2008.
Et comment a réagi votre entourage lorsque vous en avez parlé, lorsque vous avez parlé de ce projet fou?
Alors au début, c'était des têtes qui se couent, hein, parce que vraiment, les gens préféreraient que j'aille à l'école et qu'il y ait finalement quand même une sécurité derrière. Enfin, il vaut mieux avoir son papier,
Le papier.
Plutôt que de commencer sans rien, à Moutier, qui n'est absolument pas une zone viticole, et finalement, avec aucune garantie. Donc au début, c'était plutôt des gens qui venaient me faire part des soucis de mes parents qui ne me les donnaient pas en direct. Alors, je suis passé au travers de ça. Et finalement, le fil en aiguille, les résultats ont dépassé les attentes quand même.
Est-ce que le fait justement que ce projet fou fasse un peu, donne du souci à votre entourage, mais je pense par exemple aussi à vos amis, le fait d'essayer de vous dissuader, de mener à bien vos idées, est-ce que ça a été quelque part un avantage qui a permis de vous booster, où vous êtes dit je vais en plus de réaliser mon rêve, prouver qu'on peut apporter du vin tiré de la terre de Moutier?
Alors je dois dire que j'ai... Peut-être. En tout cas, j'ai puisé beaucoup dans cette histoire de Moutier. Je me suis construit en fait un petit monde à partir du monastère de Moutier-Grandval.
Vous vous êtes renseigné, hein, vous avez beaucoup lu à cette époque-là.
Oui, beaucoup. Oui, oui, quand même. Et le monastère de Moutier-Grandval rayonnait à une époque donnée sur l'Europe entière, quand même. Hein. Il était un monastère de référence. Il y a encore des pièces qui font l'histoire actuelle. Hein. J'entends la crosse de Saint-Germain, mm-hmm. c'est une crosse exceptionnelle. La Bible de Moutier-Grandval, elle n'est pas à Londres pour rien. Quoi. Donc, il avait un rayonnement incroyable. Et moi, je me suis un petit peu réfugié dans cette histoire en me disant que s'il y avait monastère, il y avait peut-être vigne, parce qu'à une époque où il n'y avait pas de moyens de transport, pour autant qu'on s'accorde sur le fait que le sang du Christ est présent dans la liturgie, alors il fallait bien le faire.
Ouais.
Et probablement qu'il était fait sur place.
De combien le laps de temps aurait-il entre le moment où on plante sa vigne et où on déguste le vin?
Alors, ça dépend des circonstances. En théorie, on dit entre 4 et 6 ans. À Moutier, on a eu des conditions adverses au début, mais qui ne nous ont pas empêchés d'avoir les premiers vins à goûter en 2011. Donc ça veut dire 3 ans après la plantation. Ce qui était assez exceptionnel. Alors au début, c'est des très petites quantités. Hein. Ils poussent une ou deux grappes par-ci, par-là, mais ça permet déjà de se faire une idée.
Alors quand ça a commencé de pousser sur cette première parcelle, hein, puisqu'après vous vous êtes élargi, vous aviez combien de bouteilles?
Au tout début, on avait 60 litres. Donc ça fait quoi? 75 bouteilles, quelque chose comme ça. Au tout début, et c'était juste pour se faire une idée. Maintenant, alors de nouveau, on a encore quelques phénomènes climatiques extrêmes comme les gelées et ces trucs-là. On n'est pas encore dans un système qui a eu une année vraiment pondérée qui permet d'avoir une idée. Mais en fait, 2015, malgré qu'il y a eu un peu de sécheresse, on a pu arroser. L'idée, on arrive à faire entre 2500 et 3000 bouteilles à Moutier.
Dis donc, félicitations. Hein. Vous devez, alors vous l'avez dit, il y a les conditions météorologiques, hein, ça ne facilite pas, vous devez pallier à ces conditions. Est-ce que c'est la partie la plus difficile de ce métier?
Je dirais que c'est en train de le devenir, ouais. Ce n'était pas du tout forcément un souci,
avant,
même
début.
Partagé, même quand moi je faisais mes apprentissages, voilà, il y avait de temps en temps la grêle, mais on était préparé à ça, prévenu. Mais là, maintenant, il y a quand même des phénomènes qui s'amplifient, enfin, des sécheresses prolongées, ou alors des périodes de pluie prolongées, ou alors, justement, après un temps qui part trop tôt et quasiment dessus, dégelé après. Enfin, ça fait quelques années qu'on a plus ou moins chaque année une situation météorologique extrême qui se présente. Et ça, c'était vraiment pas une habitude. Donc, on doit un petit peu travailler avec ça. Et puis, je dirais, c'est aussi quelque part une chance parce que ça... ça nous montre qu'on n'a pas la mainmise sur tout et qu'on ne l'aura pas plus en utilisant plus de produits ou plus de moyens. À mon avis, on aura plus intérêt à laisser
la nature,
un maximum de place à la nature.
Aurel, vous aimez rassembler, vous aimez la convivialité, vous êtes courageux, vous êtes confiant. Est-ce que ces qualités sont essentielles pour aller de l'avant dans un projet tel que celui que vous avez mis en place?
Oui, je pense. Honnêtement... Parce que justement, on passe par plein de moments d'incertitude quand même. Hein. Quand les projets naissent, on a souvent une énergie qui est débordante, qui est enthousiaste. Et parfois, elle se bute quand même contre une réalité qui est un peu plus froide. Qu'elle soit économique, qu'elle soit météorologique, justement. Donc après, il faut puiser certaines fois dans des ressources qu'on n'a même plus soi-même. Donc c'est vrai qu'avoir du soutien qui vient d'un cercle de gens qui ont été quelque part aussi... pris avec cet enthousiasme au début, c'est une chance de pouvoir de temps en temps aller quelque part se faire consoler ou se faire redresser le moral par des gens externes.
Oui, oui.
Voilà.
De retrouver.
Et puis après la confiance, effectivement, ça aide quoi. Enfin, ça se cultive aussi parce que ça devient de plus en plus difficile, mais ça aide. Ouais.
On parlait aussi, alors pas de façon péjorative, hein, loin de là, le culot aussi est important, le toupet.
Oui, en fait, ouais, je pense. C'est-à-dire que là, une attitude que maintenant je commence à mettre en place, c'est de me dire, quelque part, tout change tellement vite qu'on est presque comme des gens qui sont finalement condamnés. Soit à disparaître par événements climatiques, soit par la numérisation qui va remettre en question plein de métiers, soit... Enfin, on a une incertitude fondamentale maintenant, je dirais. Et devant une incertitude fondamentale, autant choisir la voie qui permet de se dire, il n'y a rien à perdre, finalement. Parce que la plus grande chose à perdre, c'est de croire qu'on a un acquis. Or, cet acquis, on ne l'a pas. On l'a en aucun cas, nulle part, à mon avis. Donc, en fonctionnant sans avoir un acquis, on va se dire que voilà, c'est pas grave si on perd quelque chose ou pas. De toute façon, ça nous appartient pas. Donc, ça permet d'aller toujours un peu de l'avant. Ouais.
Une philosophie en plus qu'on retrouve en bouche hein, quand on voit votre vin. Il a cette philosophie d'être exempt de toute substance issue de la chimie de synthèse sans sulfite. Alors ça aussi, est-ce que dès le départ, quand vous avez planté vos vignes, vous vous êtes dit « je ferai un vin comme ça, je ne veux pas de sulfite, je ne veux pas ça, je veux si, je veux ». Est-ce que vous l'aviez déjà, comme quand on aménage un petit chez soi, est-ce que vous aviez déjà l'image, vous disiez « je le veux comme ça »
Non. En fait, je ne connaissais pas le milieu du tout. Donc, c'est-à-dire que je l'ai appris de manière relativement conventionnelle, c'est-à-dire dans des domaines grands qui étaient quand même traités de manière chimique. Mm-hmm. Et moi, j'avais fait les scouts au début, chose qui m'a beaucoup touché dans mon adolescence et tout, qui avait un lien vraiment fort avec la nature. Et j'ai toujours eu l'idée de faire quelque chose qui soit en lien vraiment avec la nature, qui soit de l'ordre symbiotique. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé à faire le contraire, finalement. Et je remarquais que, pas forcément que je le faisais le contraire, parce que j'étais quelque part dedans. Et ça fonctionnait, malgré tout. Et jusqu'au moment où j'ai eu une espèce de décalage vraiment fort, à un moment où on traitait dans un village et qu'il y avait des enfants qui passaient, une mère avec un enfant à la main, plus une poussette, et qui riaient de me voir habillé comme un cosmonaute en faisant un traitement. Et moi, si j'étais habillé comme un cosmonaute, je savais pourquoi. Et eux, ils ne savaient pas. Ouais. Et ça m'a un petit peu refroidi, vraiment. Enfin, même directement refroidi. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment voulu appliquer un métier qui puisse être cohérent par rapport aussi à ce que je défendais antérieurement.
Vos vins ont traversé les frontières. Hein. Ils sont allés jusqu'à Paris, voire encore plus loin. Lors d'une dégustation, ils faisaient partie des gammes les plus appréciées. Alors, quelle est la particularité de vos gammes de vins?
Alors, ils sont justement, ils reflètent, on va dire, c'est maintenant, c'est devenu aussi un peu une tendance, hein, le vin naturel, oui. C'est-à-dire qu'ils reflètent clairement un terroir, une façon de le vinifier et un rapport avec leur millésime. Et ce qui n'est pas forcément le cas de tous les vins qui, parfois, ont le même goût, quelle que soit l'année qui s'est déroulée, quel que soit l'orage, finalement, et tout. Donc, voilà, c'est des vins qui sont atypiques, on va dire, hein, qui ne plaisent pas à tout le monde, hein, ça, c'est sûr, aussi. Mais qui ont vraiment cette clarté, c'est-à-dire que c'est du jus de raisin qui fermente avec des levures indigènes qui sont propriétés, en fait, de l'année météorologique écoulée et de la santé d'un sol et finalement la part de travail du vigneron derrière, elle se minimise de plus en plus. Le but est d'être le moins possible interventionniste pour laisser le plus de place possible à l'expression de la nature qu'elle va.
En fait, ce sont des vins qui vous ressemblent, Aurèle.
De plus en plus, on va dire, oui.